Radio Campus Air.
Welcome to Radio Campus.
Welcome to Radio Campus. Campus.
Radio Campus Orleans 88.3 FM.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Médias et numérique libre.
Bonjour Patrick, ouais. Bienvenue à toi sur Radio Campus Orléans. Alors toi, tu viens d'une Radio Campus, tu viens de Toulouse, on l'entend un petit peu à ton accent, et tu diffuses depuis bien 25 ans, si ce n'est pas plus, le programme H1000 sur Campus FM, la Radio Campus de Toulouse. H1000, c'est une excursion dans la nature et plus particulièrement dans un environnement, dans des paysages tout particuliers qu'on découvre au travers de tes enregistrements. C'est l'environnement de la montagne. H1000, ça fait donc depuis 97, voire même avant, tu me disais à l'instant, raconte-toi un petit peu la jeunesse de ce programme.
Tout d'abord, j'ai commencé sur Campus Toulouse en passant des émissions pause disque, donc essentiellement des émissions musicales. Et puis, nous étions tous inspirés un peu par les fausses publicités que l'on voyait qui étaient distillées par les nuls, les inconnus. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, il y a peut-être une autre manière de faire de la radio. Et comme je suis passionné de montagne, à l'époque, j'ai eu cette idée qui, à l'époque, était très incongrue, parce qu'en fait, la création sonore, on en parlait très peu à l'époque sur les radios locales. Et donc, j'ai eu cette idée de prendre un Walkman lecteur-enregistreur avec micro intégré et de prendre le bruit de mes pas, des sources, avec les moyens du bord, quoi. Voilà.
Et à l'époque, on est en 96 à ce moment-là, plus ou moins. C'est quoi comme appareil, c'est quoi comme matériel que tu as entre les mains?
En 96, j'ai un Walkman lecteur-enregistreur. Je pense que même ta génération n'a pas connu ce
non.
type de machine, quoi. C'était à petite bande de cassette, des micros intégrés d'une qualité qui était mauvaise, hein, faut le reconnaître. Et puis progressivement, j'ai participé à un concours en 2000, un prix qui était décerné par le gouvernement andorran et qui récompensait donc un reportage faisant valoir le patrimoine culturel et sonore des Pyrénées. Et j'ai eu le premier prix. Et à partir de là, j'ai progressé. J'ai acheté mon premier microphone stéréo. La qualité était bien meilleure, mais ce n'était pas encore ça. Et je me suis équipé d'un mini-disque lecteur-enregistreur. Voilà, on est passé de la cassette au mini-disque. Et puis, chemin faisant, l'émission et le projet a grandi, puisqu'elle est multidiffusée sur le réseau des Radio Campus France, mais non seulement sur le réseau des Radio Campus, mais aussi sur d'autres radios locales. Et aujourd'hui, je travaille avec du matériel professionnel, voilà.
Parce qu'à l'époque, j'imagine que ton Walkman, c'était, tu le disais, tu es passé sur des micros stéréo, donc le Walkman, c'était du mono, c'était le micro intégré de l'appareil ou c'était un micro que tu branchais par-dessus ?
C'était un micro intégré stéréo sur l'appareil.
Stéréo quand même.
Sony. Ouais, stéréo quand même, mais le son était pourri par rapport au micro que j'utilise aujourd'hui où on peut capter des sons à 400, 500 mètres avec... C'est un peu aujourd'hui le matériel que j'utilise, on pourrait attribuer cela à la réalité augmentée, voilà. Mais plutôt qu'utiliser des lunettes connectées ou des vidéos, je ne sais pas, connectées en 3D, et bien là c'est le son, parce que le son est un puissant inducteur d'imaginaire. Et c'est alors à l'auditeur de créer ses propres images lorsqu'il écoute la radio bien installée confortablement chez lui. Voilà.
Alors c'est ça, c'est de la réalité virtuelle mais sonore, mais c'est de la réalité qui est pour le coup véritablement réelle étant donné que ces microphones, tu les balades dans la nature, dans les montagnes. Alors tu es guide diplômé de moyenne montagne depuis 2003, donc oui. C'est après le début de tes enregistrements pour H1000. Tu le faisais déjà à la montagne du coup avant 2003, mais j'imagine t'étais avec du monde, t'étais accompagné?
Non, tout à fait. En fait, moi, j'ai tourné pendant 25 ans la montagne exclusivement en solitaire. Et en fait, lorsque je prenais à cette époque-là le microphone était comme finalement une forme de projection de la personne qui ne m'accompagnait pas. Et finalement, c'est comme si je parlais donc à une personne via le microphone. Et c'est ce qui donne, je pense, cette tonalité particulière à l'émission qui consiste à une balade sonore. Et puis, bon, de par mon métier, j'ai arrêté accompagnateur montagne, mais de par mon métier, lorsque je prends le microphone actuellement ou que je réalise le programme H1000, c'est un peu comme si j'avais une dizaine de clients derrière mon dos, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant parce que je tiens à dire que ce n'est pas une émission virtuelle, quoi. Moi, ce que je cherche, c'est à restituer de la manière la plus réaliste et la plus naturelle possible le paysage sonore que je découvre avec mes oreilles à travers le micro. Et c'est pour cela que je ne me considère pas comme un créateur sonore. Je suis entre la création sonore, le reportage, le narratif, puisqu'en fait, je commente ce que je vois, je décris le paysage, éventuellement mes émotions. Et puis parfois, sur le chemin, je rencontre des gens, et puis voilà, je dis, c'est pour beaucoup de radios locales, est-ce que vous voulez parler au micro? Et ça donne très certainement une coloration un peu différente, voilà.
Alors finalement, tu n'es jamais seul, puisque tu le dis que quand tu es avec ton micro, tu es comme avec quelqu'un et tu emmènes les auditeurs et auditrices avec toi. Je pense particulièrement à des auditeurs et auditrices qui, elles, même si elles t'accompagnaient sur le terrain, ne pourraient pas voir les paysages. Je parle par exemple des personnes qui sont aveugles. Est-ce que tu as déjà eu des retours de ce public qui, grâce à H1000, ont pu partir à la découverte de cet environnement ?
Alors, la radio est un milieu, comment dire, en fait, on rencontre rarement les auditeurs qui nous écoutent, et je trouve que c'est la magie de la radio. Mais pour autant, j'ai participé effectivement à des séances d'écoute avec un public non-voyant ou malvoyant, et effectivement, quoi, ils sont ravis. Mais je pourrais dire que les gens qui ont la vue sont tout autant ravis. La seule difficulté pour les gens qui ont la vue, c'est qu'en fait, ils sont totalement envahis par le concept de l'image. Il m'arrivait de faire des séances d'écoute où les gens me disaient « Ah, c'est là la projection ?» Je dis « Non, c'est pas une projection, c'est une séance d'écoute. » Qu'est-ce que c'est une séance d'écoute ? Vous vous asseyez confortablement et vous écoutez. Bon, alors voilà, leur première réaction, n'est pas positive. Et puis en fait, souvent à la fin de la séance, ils sont émus parce que ils retrouvent des sons autour de leur patrimoine pyrénéen. Autour de leurs bêtes, voilà, j'avais fait ça dans un petit village pyrénéen, hein. Et vraiment, les gens étaient assez étonnés de la restitution sonore, et parce que le son, c'est quand même organique, voilà, une image, finalement, on voit une belle image, mais l'imagination s'arrête, alors que à travers le son, d'abord, c'est organique, on peut le ressentir de tout son corps. Et puis, l'imaginaire, alors là, il vague très loin dans les paysages sonores que je peux leur proposer.
Alors, comment on amène justement le public à découvrir cette forme d'écoute qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était pas forcément très démocratisée et vraiment dans les esprits, qui est vraiment le son sans l'image ? Comment est-ce qu'on amène le public à accepter cette nouvelle forme de découverte, de consommation ? Est-ce qu'on peut parler de consommation aussi ?
Alors il y a deux choses. Il y a pour moi les plateformes de podcast qui se multiplient comme les petits pains. Et moi, personnellement, je crois que trop de podcasts peut tuer le podcast parce qu'il y a, il y a tout et n'importe quoi, hein, dans le podcast. Et puis surtout, on est tributaire des plateformes de podcast. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être pigiste des grandes plateformes de podcast. Ensuite, deuxième chose, deuxième ancrage pour la création sonore, c'est donc le réseau de Radio France, France Culture. Je ne vois que d'ailleurs, parce que France Inter, très peu pour la création sonore, et même France Culture, on a de grandes difficultés à proposer des programmes venant de l'extérieur, tant qu'on n'est pas ou qu'on n'a pas été formé dans le giron de France Culture. Donc, il reste qui ? Et c'est pour cela aussi que je vends, enfin, que je défends, hein, j'ai fait un petit lapsus là. Pas la vente, que je défends la radio locale, le seul endroit où finalement la création sonore est aussi accessible, c'est la radio locale. Et justement, elle ne passe pas à travers des sociétés, des podcasts, de podcasts qui va vous imposer un format, des contraintes. La radio locale, pour moi, est un espace de liberté. Et c'est vous qui, me semble-t-il, à l'heure actuelle, assurez la promotion de la création sonore. Encore que, je terminerai, sur la création sonore, moi, pour moi, c'est un terme galvaudé, quoi. Il ne s'agit pas d'avoir un magnétophone et d'enregistrer à tout vent des sons dans la nature ou des sons chez soi, et puis les remasteriser, les travailler sur plusieurs pistes, ajouter quelques synthés analogiques, et voilà, le tour est joué. Et c'est encore une fois mon propos initial, c'est-à-dire que je ne me définis pas comme un créateur sonore, je suis entre un ovni radiophonique et l'esthétique sonore. Je préfère... le terme carte postale sonore, esthétique sonore. Oui.
Est-ce que tu as connaissance...
Ou écriture radiophonique.
Ouais. Est-ce que tu as connaissance d'autres créateurs, d'autres créatrices de cartes postales sonores qui feraient un travail similaire au tien ? Est-ce que tu en as déjà rencontré ?
Alors, j'en ai pas rencontré, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Alors là, je ne veux pas paraître prétentieux, mais à l'époque où j'ai commencé à Schmil... on me disait presque, quitte la radio parce que ce n'est pas de la radio, voilà. Et aujourd'hui, je trouve que ce concept finalement de d'émission qui consiste à créer une forme de mémoire sonore aussi autour du paysage et du milieu naturel, qu'il soit en montagne, en mer, ou ailleurs, parce que aussi j'ouvre l'émission sur d'autres paysages sonores que ceux de la montagne. Mais aujourd'hui, c'est à la mode, d'autant plus que l'environnement est en danger. Et voilà, donc oui, je connais, enfin, pas de manière physique, mais en tous les cas, j'ai ouï dire de beaucoup de grand nombre de personnes qui utilisent, et d'ailleurs on le retrouve dans la musique électronique, notamment dans l'ambiance, où en fait il y a des enregistrements de field recording, donc de sons que l'on collecte dans la nature et qui sont réinjectés dans des nappes de musique électronique, etc. etc. Oui, donc il y en a beaucoup, c'est un concept qui est en train d'évoluer. Tant mieux, mais il ne faut pas faire n'importe quoi.
Et ce voilà. Serait quoi n'importe quoi ?
Eh bien, n'importe quoi, c'est-à-dire, encore une fois, je pense, moi, ce que je peux reprocher à la création sonore, c'est qu'on s'adresse à un public, quand même. Alors, ça ne veut pas dire s'adresser à un public, s'adresser au plus grand nombre, faire des choses commerciales. Ce n'est pas ça que je dis. À un moment donné, il faut qu'il y ait une narration, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui vous amène vers, finalement, vers un objet de réflexion. Et parfois, j'ai l'impression que dans la création sonore, c'est un enchaînement de sons qui sont très beaux, très esthétiques, très travaillés, beaucoup mieux travaillés que ce que moi je peux faire, Mais à qui s'adresse-t-on? Est-ce qu'on s'adresse à vraiment un petit comité de personnes, d'ingénieurs de son, de musiciens électro-acousticiens, ou est-ce qu'on s'adresse à un public plus large pour rendre finalement l'écoute de la radio et l'écoute de la nature plus facile et plus disponible? Je pense que nous avons... J'aime pas ce terme parce que j'ai l'impression que je parle comme le gouvernement là. Mais nous avons un rôle un peu d'initiation, voilà. Je dirais pas pédagogique comme dit le gouvernement, mais d'initiation. Qui aujourd'hui écoute un disque vinyle? Qui aujourd'hui achète un CD pour écouter toutes les plages du CD? Qui aujourd'hui se pose devant un poste radio ou devant son ordi, si la radio donc podcast l'émission, il va écouter une heure d'émission. Moi, j'ai un certain âge, c'était ma pratique au quotidien, et ça l'est encore. Mais aujourd'hui, je vois bien que tout est déterminé par le monde numérique, les réseaux sociaux, le podcast, etc., etc. Voilà, il y a une différence quand même entre écouter quand même un vinyle sur une bonne chaîne stéréo et ou son téléphone portable avec des réseaux sociaux dont je ne citerai pas ici les plateformes Spotify et compagnie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé l'idée.
À mon sens, oui. Donc moi, ça m'amène à la question, justement, comment est-ce qu'on fait pour toucher ce public qui aujourd'hui, tu parlais des réseaux sociaux, sont habitués à cette ultra-instantanéité, à cette finalement, tu parlais aussi tout à l'heure d'image, qu'on est vraiment énormément habitué à l'image. Les réseaux sociaux, les plateformes, c'est énormément d'images en fait qui bougent dans tous les sens. Quelle place peut se faire justement la carte postale sonore? Quelle place peut se faire l'audio dans un monde qui est saturé d'images, dans un monde de l'ultra-instantanéité où l'information se consomme en 3 secondes et non plus en 1 heure, comme tu le disais sur tes pratiques à toi, où tu pouvais te poser pour écouter une émission pendant 1 heure. Comment on fait?
Je pense que c'est par rapport à la diffusion, c'est-à-dire qu'il faut démocratiser la diffusion de ce type de programme. Donc moi, je vois au moins deux pôles essentiels. C'est de multiplier les séances d'écoute. Voilà, on peut très bien imaginer que le cinéma fasse une soirée autour de la création sonore. Enfin, quand je dis création sonore, voilà, tout type de forme de création ou d'écriture radiophonique nouvelle. Et surtout, notamment, que, et il est là le problème, que le réseau dit professionnel, donc on en revient sur le réseau Radio France, donne la possibilité à des radios locales de promouvoir leurs animateurs et leurs producteurs entièrement autonomes. Voilà, je pense que si effectivement, on va citer encore une nouvelle fois France Inter, plutôt qu'ils rediffusent la nuit leur programme de la journée, pourquoi ne pas ouvrir? Je dis ça parce que c'est une proposition que j'ai faite à France Inter pendant le confinement. Je n'ai eu aucune réponse. À l'époque où Macron disait qu'il faut réinventer la culture, etc., etc. Oui, ben voilà, réinventons la culture. Proposons à France Inter la nuit d'ouvrir un créneau de 2-3 heures où en fait, on passerait des auteurs indépendants ou des gens qui réalisent des émissions auprès des radios locales, et ça entièrement gratuite. Ben non,
pas de réponse.
Ça ne le fait pas. Voilà. Donc je crois qu'il y a une volonté aussi politique. Aujourd'hui, le monde de la musique et le monde de la radio, enfin, quand je dis radio, fun et compagnie, c'est un produit. La musique est devenue un produit commercial. Voilà, qui se souviendra dans 10 ans, du rap de Maître Gims, du podcast de la personne qui raconte sa vie durant le confinement, qui s'en souviendra dans 10 ans. Par contre, des travaux qu'ont réalisé Yann Parent-Owen à l'époque, aux heures vraiment glorieuses de France Inter et de France Culture, on s'en souvient de Yann Parent-Owen, comme peut-être pas la génération des jeunes, encore que on peut se souvenir des émissions mythiques, un peu Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, même si le personnage a été fortement décrié et non pas à tort. Mais en tous les cas, ce sont des émissions qui font partie du patrimoine culturel radiophonique. Donc voilà. Il ne faut pas être dans l'instantanéité, effectivement, comme tu le disais.
Finalement, tu es donc diffusé sur tout un réseau, en fait. Même il y a le réseau Radio Campus France, mais d'autres radios qui sont hors de ce réseau national. Tu parlais donc des radios locales. Elles sont généralement associatives ou est-ce qu'il y a des catégories B, donc des radios qui sont locales mais commerciales, qui sont également intéressées par ce programme ?
Non, très peu. C'est surtout uniquement des radios associatives. Voilà, et c'est pour ça que je défends la radio associative. Alors, pourquoi les radios qui intègrent de la publicité sont hermétiques à ces produits, enfin, ou à ce type de réalisation? Mais parce que ce sont des radios finalement commerciales. Et voilà. De toute façon, je pense qu'il y a une uniformisation ou un formatage, que ça soit dans le monde de l'image finalement, ou dans le monde du son et de la musique, tout doit être formaté, quoi. Un morceau aujourd'hui doit faire 3 minutes 30 pour que ça tourne sur des radios. Qui va prendre la peine d'écouter un morceau de 17 minutes à l'époque du rock progressif, les Pink Floyd balançaient des pièces de 21 minutes et les gens écoutaient. Donc il y a tout un travail. Faut-il restructurer un peu, réinitialiser l'écoute. Ouais. Mais en tous les cas, il faut que, à mon avis, il y ait une volonté politique. Et j'ai l'impression que cette volonté politique, elle n'est pas là. Et que même sur le versant de la création sonore, on va dire une belle idée sera détournée encore par un mécanisme économique qui consiste finalement à être, vous mettez vos productions sur une plateforme de podcast, et tel nombre d'écoutes égalera à telle rémunération. Donc voilà. Que faut-il rechercher ? En tous les cas, moi, ce que je recherche, c'est l'authenticité. Tant pis s'il y a peu de gens qui m'écoutent, mais je sais que je suis fortement... Enfin, je pense que je suis écouté, oui. Ouais.
Donc l'authenticité...
J'ai rencontré quand même... Ouais.
L'authenticité, quitte à ce que la carte postale sonore ne soit pas sexy, ne soit pas vendable et commercialisable.
Mais commercialisable, mais je... Est-ce que la nature est commercialisable ? Est-ce que la nature est... Oui. Est-ce que la montagne, la nature, l'océan est commercialisable ? Oui, dans le sens où... Mais enfin, pour moi, non, quoi. Je trouve même que je devrais être payé, par les collectivités locales, puisque je mets en avant le patrimoine pyrénéen à travers les paysages sonores, et Dieu sait si ces paysages sonores vont disparaître.
Il y a un enjeu environnemental.
Pardon ?
Il y a un enjeu environnemental, finalement. Aussi, dans ces cartes postales sonores que tu fais, tu mets en effet en avant, tu le dis, hein, ces paysages vont disparaître. Il y a un enjeu environnemental, finalement. C'est quelque part aussi de l'utilité publique d'avoir ce genre de programme.
Je pense. Après, on va pas trop délirer en disant je vais être payé par le ministre de l'écologie. Déjà que l'écologie, on n'en parle plus. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'émission a une volonté de préservation de l'environnement. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire à travers l'émission, c'est pas tout est foutu. Parce qu'effectivement, moi, je me rends compte de la baisse. C'est un peu le fameux livre qui avait écrit dans les années 70, déjà dans les années 70, une autrice, je pense qu'elle s'appelle Carlson, mais je n'ai pas son prénom. C'était une nana américaine qui avait fait un bouquin qui s'appelait « Le printemps silencieux ». Voilà. Et effectivement, on se rend compte, moi, je me rends compte moi-même qu'en une dizaine d'années, je vais dans les mêmes endroits où j'allais 10 ans auparavant, et là il y a une chute de d'oiseaux, d'insectes, on n'entend plus rien, on n'entend plus rien. Et ça, c'est grave. La seule chose que j'entends, oui, c'est les avions qui passent toutes les 5 minutes, quoi. Un jour, il faudrait que je fasse une émission, parce qu'en fait, je coupe chaque fois les bruits d'avion. Il faudrait que je fasse une émission, vraiment, où je dis, ben voilà, je suis en train de faire une prise de son et écouter tous les avions qui passent, quoi. Voilà. Mais j'ai pas envie de dire que tout est foutu. Moi, le but de l'émission, c'est d'essayer de créer chez l'auditeur une forme d'émotion qui va le rendre sensible, contemplatif, admiratif de la nature. Et je me dis que si cette personne est contemplative, admirative de la nature, peut-être ça peut l'inciter à mieux la considérer, à mieux la protéger. Voilà, c'est peut-être je pense que c'est un moyen aussi louable que de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne prenez pas l'avion, etc. etc. Voilà.
Et tu es diffusé donc sur toutes ces radios qui te diffusent contrairement au service public. Est-ce que finalement, ce réseau de radios associatives, est-ce qu'on peut parler, selon toi, de service public associatif ?
Dans tous les cas, ce dont je peux parler, que serait la France sans les associations ? Et là, tout confondu. Hein. Il y a une émission, quand même, je peux la citer, qui s'appelle Carnet de campagne, qui est diffusée sur France Inter. Ça fait depuis, je crois, une dizaine d'années. Et chaque semaine, chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi, quelle que soit la région où donc France Inter se trouve, ils trouvent des associations, des associations. Donc je pense que, c'est pas je pense, c'est une certitude, les associations, qu'elles soient culturelles, non culturelles, fait tenir la France, fait tenir encore le lien social qui se délite, voilà. Et le lien par rapport à la nature, lorsqu'effectivement des radios comme Campus Orléans et les autres diffusent ce type de programmes qui ne sont pas fréquents. Donc oui, il y a un service public, sauf qu'on ne nous donne pas les moyens aux associations, on ne donne pas aux associations les moyens à la hauteur des services qu'ils rendent aux citoyens. Voilà. Donc j'incite nos politiques à réfléchir sur cette question.
Dernière question avant de se quitter, Patrick. La radio, tu y as commencé il y a plus d'une trentaine d'années. Il y a 30 ans, Radio Campus Orléans naissait. C'est quand la première fois que tu as mis les pieds dans une radio, que tu as mis les pieds justement dans l'environnement sonore ? Parce qu'on parlait de H1000 qui a commencé vers le milieu des années 90, mais j'imagine que ton aventure audio, elle a commencé bien avant.
Elle a commencé lorsque j'étais lycéen, donc après mai 81. Libéralisation
des ondes
initiée par Jacques Lang. Et en fait, on voyait des radios, il y en avait partout. Les dossiers pour monter une radio étaient beaucoup plus faciles qu'à l'heure actuelle. Et alors, je m'amuse à dire cette petite anecdote. La radio locale dans les années 80, donc j'ai commencé en 83 exactement, était ce qu'est aujourd'hui un peu le Facebook ou le TikTok. Enfin, moi, j'utilise pas les réseaux sociaux, mais ça veut dire que un jeune allait à la radio pour faire écouter la musique que les pères et les mères et les adultes n'écoutaient pas, et voilà, pouvaient dire quand même à la radio on délirait tous à la radio, quoi. Hein. Bon, alors parfois c'était pas forcément audible, mais c'était un moyen d'expression qui était mis à la disposition des jeunes. Et si je parlais comme un vieux, que je ne suis pas, je l'espère, je dirais que quand même il y avait une autre, il y avait quand même une dimension différente que celle qui consiste de mettre sur Facebook sa photo ou le plat qu'on vient de manger et de le partager avec son réseau d'amis. voilà, je trouve que quand même l'intention à l'époque, lorsqu'on allait dans la radio, on proposait quand même un programme, voilà, aussi futile qu'il soit. Mais en tous les cas, on proposait quelque chose d'un peu plus élaboré que le nombrilisme auquel aujourd'hui chacun et chacune assiste. Moi, je suis toujours étonné de rencontrer des animateurs à la radio qui d'abord disent combien j'ai eu des vues sur le site de podcast de la radio, quoi. Voilà. Moi, je m'intéresse plus à la qualité, au fond et au sens que l'on peut donner dans une émission.
Et dans 30 ans, à quoi ressemblera la radio selon toi ?
Ben, dans 30 ans, ben, on le enfin, dans 30 ans, moi je pense que la radio va réémerger. Quand je dis réémerger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le DAB+, le numérique, les sociétés de podcast, on dit que de moins en moins les gens écoutent la radio, de moins en moins. C'est un peu comme le cinéma. Après le Covid, on avait dit le cinéma, plus personne va aller au cinéma, et puis finalement ça a repris. Je pense qu'à un moment donné, les gens, je l'espère en tout cas, ils vont en avoir assez d'être devant leurs écrans, de communiquer un peu de manière virtuelle, encore oui, par écran interposé. Ils auront envie de sortir, de se réapproprier un peu une forme de réalité. Je pense que la radio a de l'avenir. Voilà. Est-ce que la radio dite associative aura encore de l'avenir ? Ça, c'est une autre question. Et encore une fois, elle dépend de nos politiques. Alors, je dirais, attention pour qui vous votez. Attention, auditeurs, auditrices, pour qui vous votez. Voilà.
Attention.
Souvent, voilà.
Ouais, attention pour qui vous votez. Et sous quel format la radio ? Elle existera dans 30 ans ?
Quel format ? Mais moi, je pense que moi, je trouve que le meilleur système, c'est quand même bon, la radio en direct, parce que c'est du hasard. C'est du hasard, la radio. Moi, il m'est arrivé dans ma voiture ou ailleurs. Ah, j'allume, un titre me plaît, qu'est-ce que c'est, etc. Ou une émission me plaît. Voilà, je jette une oreille. Après, je pense que moi, ce que je souhaite, c'est que les radios locales. Moi, je pense encore une fois que c'est aux radios locales de mettre, mais c'est ce que vous faites sur Campus Orléans, de mettre vos émissions en podcast. Voilà. Moi personnellement, c'est mon côté un peu comment dire, pas dictateur, mais moi, les sociétés de podcast commerciales ou qui, enfin, moi je les mettrais ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est que uniquement le podcast appartiendrait aux radios associatives, locales ou non, qui mettent en ligne à n'importe quelle heure leurs émissions, leurs programmes. Et non pas déléguer, c'est même pas déléguer, que ce ne soit pas l'affaire des sociétés de podcast. Parce que immanquablement, si c'est l'affaire des sociétés de podcast, il y a une commercialisation et derrière, il y a une précarité qui est déjà annoncé par rapport aux auteurs et aux producteurs indépendants. Les dénicheurs de talents, enfin quand je dis les dénicheurs de talents, c'est d'ailleurs, si on réfléchit bien, on peut terminer sur ça, chers auditeurs, auditrices, si on réfléchit bien, la libre antenne, ce que vous entendez sur Énergie, ce que vous entendez à Fun Radio, ben, c'est qui a inventé ça, ce concept ? C'était à l'époque les radios locales, hein. Carbone 14, etc., 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 avec Jean-Luc Lafesse, etc., etc. Les gens qui appelaient au téléphone à n'importe quelle heure pour dire, pour raconter leurs histoires, et voilà. Ensuite, il y a eu Doc et Diffoul, Fun Radio, Doc et Diffoul, qui disait, c'était une émission un peu où les jeunes appelaient et décrivaient leurs problèmes, sexuel, etc., etc. Mais bien avant, pour citer une radio toulousaine, à Éphémère, il y avait des émissions de ce type. Le talk show, les fausses publicités, tous ces concepts ont été inventés par les radios locales et ont été récupérés par tout le réseau commercial. J'en veux pour preuve, il y a 2 ou 3 ans de cela, il y avait justement « Quel avenir pour la radio ?» C'était une émission sur Arte. Et à ma grande surprise, les représentants des radios dites locales ou associatives, ou c'était Fun Radio, il n'y avait aucune radio qui était locale, enfin associative, type Campus Orléans, était invitée. Voilà. Pourquoi au festival à Brest, je ne sais plus comment il se nomme,
c'est Longueur d'onde.
Ouais, Longueur d'onde. Pourquoi les radios locales ont très peu de place? Voilà. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi ne pas inviter tout le réseau des radios Campus France à Longueur d'onde? Voilà. Pour qu'on parle d'égal à égal avec les professionnels. Eh oui, mais c'est la France, que voulez-vous? C'est très pyramidal et hiérarchisé. Bon, en tous les cas, merci de diffuser H1000 et j'espère que ça procurera aux auditeurs et aux auditrices l'envie d'aller se promener dans la nature, en montagne ou à l'océan, puisque sur la saison prochaine, là, il y aura. J'ai même fait des émissions en spéléo. Ça, je pense que je suis le seul à le faire. Hein. Partir en spéléo avec un microphone.
Et,
et le son, il est superbe. Il n'y a pas besoin de retouches.
J'imagine qu'en effet, avec les parois des grottes, c'est comme des insonorisations de. C'est comme des mousses isolantes dans un studio de radio.
Ah oui, c'est des réverbes naturels, quoi. Et voilà, et puis c'est un monde souterrain curieux, étrange, et agrémenté des nappes musicales électroniques. Bah, c'est un voyage, voilà. Moi, ce que j'essaie de proposer, c'est un voyage sonore. Avec une pincée de bienveillance et de créativité.
Eh ben merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous à l'antenne de Radio Campus Orléans pour notre festival Ondulation, le festival de la radiophonie et du numérique. On peut retrouver ton information sur ton site internet, c'est h1000.free.fr. Par contre, pour t'écouter, rendez-vous sur les radios locales.
Alors justement, non, ça c'est un ancien site.
Ah, c'est un ancien site, ça.
En fait, pour écouter quelques émissions en ligne, je ne mets pas tout en ligne, sinon à quoi bon? Vous me diffusez, si je mets toutes les émissions en ligne avant que vous me les diffusiez, c'est H1000, H en minuscule, comme la lettre H, 1000 en chiffre, un suivi de 3 zéros, H1000 radio, tout attaché, onglet SoundCloud, boum, vous cliquez et là vous avez des émissions que je propose en podcast.
Donc sur SoundCloud, H1000 radio.
Voilà, H1000 radio, oui.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup à toi.
Merci et longue vie à Radio Campus Orléans. Voilà, vous êtes un acteur non négligeable de la vie étudiante, culturelle et sonore du pays orléanais.
Je m'en vais accrocher à ta fenêtre pour te rendre.